Il y a déjà une main levée en arrière. Oui, tu as vécu ça. Un traitement choyé, là, vraiment aux petits oignons. Là, ils ont pris soin de toi. Tu avais quelque chose de spécial. Un autre là-bas? Ouais. Donc, je suis pas tout seul. Oh, un autre madame, Madame Le Sage, Joanne. Il y en a-tu d'autres qui ont vécu ça, des traitements VIP? Ben, ça se lève des mains, hein? Bon, il y en a qui avaient peur que peut-être que je leur dis, racontez-moi, c'était quoi? Bon, des fois, c'est une place choyée, quelque chose de particulier. Moi, des fois, quand, dans le temps que je travaillais à Hydro-Québec, des fois, mes clients m'emmenaient quelque part, puis là, j'avais droit à un petit traitement de faveur, là, un endroit où j'ai une place privilégiée, là, VIP. VIP, c'est VIP pour Very Important Person. Hein, des personnes très, vraiment importantes. Alors, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Enfin, on va regarder que, aux yeux de Dieu, on est une personne vraiment importante. Et on va le voir. En fait, faut avoir des preuves de ça. C'est bien beau de dire que je suis une personne bien importante aux yeux de Dieu, mais c'est quoi la preuve? Comment tu peux me prouver ça? Il y a deux façons, deux preuves qui me disent que je suis une personne importante aux yeux de Dieu. La première, on va le voir ce matin à travers l'Épître aux Hébreux, les deux premiers chapitres d'Hébreux. Mais en gros, je vous le résume ici, là. La première chose qui me dit que je suis une personne importante aux yeux de Dieu, c'est la façon dont le traitement particulier que j'ai eu quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam et Ève, comment qu'il les a... Hey, c'est un traitement royal. Il les a mis sur la terre, il leur a donné le royaume terrestre à gérer, administrer. Il était là comme roi et maître sur la terre. Vraiment particulier. Puis Adam et Ève, ils ont été créés avec une machine extraordinaire, comme humain. Une machine qui pouvait vivre, combien d'années qu'ils pouvaient vivre? Comment? Éternellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, là, je pourrais rencontrer Adam. Bonjour Adam! Adam, il serait tout fier, il me dirait qu'il célèbre son 10 000e anniversaire. Comment vous pensez qu'il serait, Adam? C'est mon 10 000e anniversaire. Non, non. Il aurait comme 20 ans, là, en pleine shape, et il me dirait il s'en va jouer au golf, puis il fête son 10 000e anniversaire, puis comme à 20 ans. Un corps qui vit éternellement. C'est comme ça que Dieu a créé Adam et Ève. Bon, on sait par la suite que ça a gaffé un peu, hein? Et même beaucoup. Puis on en a même des répercussions aujourd'hui. Ça, c'est le traitement de faveur VIP que Dieu a traité Adam et Ève. Ils étaient en parfaite relation avec Dieu. Ça compte pour beaucoup, là. Énormément. Ils étaient en parfaite relation. Il n'y a rien qui avait coupé la relation avec Dieu. Ça, c'est à la création. Et plus loin, dans l'avenir, Dieu nous réserve un traitement de faveur extraordinaire, VIP, dans une terre renouvelée, des cieux renouvelés. Et là, on va avoir un traitement un peu comme on avait au début, avec une relation avec Dieu, vraiment quelque chose où on va régner aussi sur la terre, quand Dieu va faire une nouvelle terre, on va régner, il va nous redonner un peu notre royauté, il va nous placer en gouvernance de la terre. C'est vraiment un traitement particulier que Dieu veut faire avec nous autres, VIP. Et la deuxième raison, entre ce qui s'est passé au tout début à la création et ce qui va se passer dans le monde à venir, il y a quelque chose entre les deux. Parce qu'on sait que il y a eu un manquement, il y a une faille à un moment donné, hein, qui permet que le transfert s'est pas fait de même. Ça, c'est dans l'idée de Dieu. Dieu veut ça pour l'homme, sa créature. Mais il est arrivé de quoi? On sait tous c'est quoi. Mais là, Dieu a voulu recoller ça ensemble, voulu nous permettre qu'on puisse atterrir là-bas et nous redonner ce qu'on avait perdu au début. Et là, c'est là que Dieu a fait son œuvre extraordinaire de réconciliation avec l'homme. par son Fils Jésus-Christ, par l'œuvre de son Fils Jésus à la croix. Et c'est ça, et dans le fond, là, Dieu, là, il a remué le ciel et la terre, il a brassé ça au bout pour nous donner un traitement ultime, une faveur extraordinaire, un traitement VIP, là, à l'ultime, par son Fils Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, parce que je comprends pas tout ce que Dieu a fait. C'est gros qu'est-ce qu'il a fait. Et j'ai besoin de me courber devant lui, avec vous, et puis de me soumettre à lui, à sa volonté. Prions. Seigneur Jésus, toi le roi, créateur, toi qui m'as aimé, et chacun de tes enfants, tu les as aimés. Et chacun des hommes et des femmes sur terre, tu les as aimés. Seigneur Jésus, sois avec nous ce matin. Visite nos cœurs là où on se trouve, avec les combats que chacun a, qui sont différents les uns des autres. Seigneur, tu nous attends, tu as un rendez-vous avec nous. Ce matin, tu veux nous parler. Seigneur Jésus, utilise-moi, donne-moi les bonnes expressions, les bons mots et les bonnes illustrations. Seigneur Jésus, fais qu'on puisse sortir de cette salle ce matin en ayant compris un petit peu plus, Seigneur Jésus, cette relation particulière et privilégiée qu'on a avec toi, Seigneur Jésus. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, on va ouvrir la belle parole de Dieu. Alors, j'ai pas le texte ici à la main, mais j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Hébreux, le livre aux Hébreux, qui a été écrit par qui? En disant Paul, tu as une bonne chance, parce que Paul il en écrit beaucoup dans le Nouveau Testament. Habituellement, tu tombes dessus en disant Paul. Mais ici, l'auteur, il est pas connu. C'est un auteur inconnu. Peut-être Paul, mais il est pas connu. Verset 1 du chapitre 1. Après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. C'est Dieu a parlé dans tout l'Ancien Testament, Dieu a parlé par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et même par lui, il a créé tout l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. La parole puissante du Fils. Rappelez-vous, quand Jésus était dans la barque, et puis là, il y avait une tempête, Jésus, il dormait. Ceux qui étaient avec lui l'ont réveillé. Puis là, Jésus s'est levé, et il a, simplement avec sa parole, il l'a menacé, il a parlé directement aux éléments, au vent, à la tempête, et tout de suite, tout s'est arrêté, immédiatement, par sa parole puissante. Quand Lazare était mort dans sa tombe, depuis 4 jours, Jésus a dit, « Enlevez la pierre. » Il a parlé à Lazare. « Lazare, sors! » Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de la tombe. Tout de suite, quand Jésus parle, action. Il y a une réponse immédiate. Il y a quelque chose qui se passe. La parole puissante de Jésus. Quand Jésus s'adressait à une personne qui était possédée d'un démon, Jésus, en parlant au démon, il lui disait, « Sors, qu'il soit un démon, 2, 10, 100, il y avait l'affaire à sortir. » Il sortait de là. La parole de Jésus, du Fils de Dieu, est efficace. Et il y a autorité immédiatement sur tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui peut sur lequel Jésus ne peut pas agir avec puissance. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ici, trois petits versets, mais ici, l'auteur est en train de faire comme un résumé de la seigneurie de Jésus, tout ce que l'œuvre de Jésus. Il nous dit que Jésus a créé tout l'univers, qu'il a Il a une parole puissante, qu'il a fait la purification des péchés. C'est sûr qu'il a mis juste trois mots, là, purification des péchés, mais ça englobe tout son ministère. Et maintenant, il était assis à la droite du Père dans les lieux très hauts. Au verset 4, « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Il est devenu d'autant supérieur aux anges. Le mot « ange », là, dans les deux premiers chapitres, on va le revoir 11 fois. Donc, un matin, ça se peut qu'on parle des anges un petit peu. On le revoit 11 fois. Ici, c'est précisé, il est devenu, Jésus, d'autant supérieur aux anges. Donc, devenu supérieur, ça veut dire passage, hein? Devenu supérieur. Car, auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Là, il y a des mots, « Il est devenu », au verset 4, « Il est devenu », donc, sous-entend comme un passage, « Il est devenu », et « Je t'ai engendré aujourd'hui. » Des mots que des fois, on peut venir croche un peu en les lisant, « Je t'ai engendré aujourd'hui. » Et on voit la relation père-fils. Et au verset 6, « Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né. » OK. Dieu a introduit dans le monde le premier-né. Si je regarde le premier-né, si je pense à homme, le premier-né, c'est qui? C'est, en tant que homme, c'est Adam. Dieu a créé Adam, la première créature, Adam. Le premier-né, une créature, Adam. Dieu a créé d'autres choses. Il a créé les anges. Les anges, il les a créés, puis dans la suite des choses, il les a créés avant l'homme. Donc, quelque part, il a créé des anges avant de créer l'homme. Et les anges, il les a créés comment? Il les a créés qui pouvaient vivre combien de temps? Éternellement. Même affaire que les hommes, que l'homme. Quand il a créé l'homme, il l'a créé éternellement. Il a créé les anges pour vivre éternellement. L'homme, il l'a créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Les anges, c'est pas dit qu'il l'a créé à l'image de Dieu. Dans le fond, s'il précise qu'il a créé l'homme à son image, il n'a pas créé les anges à son image. Okay? Les deux peuvent vivre éternellement, mais il y a une différence entre les anges et les hommes. Les anges sont sont des esprits au service de Dieu. Ils passent leur temps à louer, adorer Dieu. L'homme, quand Dieu l'a créé, il voulait qu'il règne sur la terre. Il voulait qu'il y ait une relation avec Dieu et que l'homme aussi puisse glorifier Dieu. Donc, mais l'homme est limité dans un corps physique, ce que les anges n'ont pas. Les anges, bon. Les anges sont dans le ciel, ils louent Dieu, puis ils passent leur temps à louer Dieu, sont heureux. On en connaît quelques-uns des anges, il y a toute une hiérarchie dans les anges. En passant, ce sont des myriades d'anges, hein, c'est des myriades, c'est des milliards d'anges. C'est énorme. Et on connaît Michael, ange qu'on connaît, archange Michael, et lui, il y a des myriades d'anges qui sont sous sa direction. Un autre archange qu'on connaît, ou Gabriel, il y a Raphaël, il y en a d'autres, là, bon, ils sont dans le ciel. Et il y en avait un autre, un ange, archange, très haut, très puissant, très beau. Hein? Belzébuth, non. Lucifer. Puis son nom veut dire astre brillant. Donc, un ange, très bel ange dans le ciel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tu sais, il y avait aussi un paquet d'anges qui travaillaient pour lui ou qui étaient sous sa direction. Il y avait un poste très élevé au ciel, extrêmement proche de Dieu. Il passait son temps à louer, adorer Dieu. À un moment donné, ben, il était très, 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 très beau, très intelligent, très glorieux. Il s'est dit, c'est correct, adorer Dieu, c'est beau. Mais il regardait tout de suite les autres anges autour de lui, puis il s'est dit, ben, pourrait m'adorer un petit peu moi aussi, tu sais, quand même, toute l'intelligence que j'ai, la beauté que j'ai, je n'enlève rien à Dieu, il pourrait m'adorer un petit peu. Immédiatement, ça a fait une cassure avec Dieu. Et là, il a été déchu de sa fonction. Puis dans Apocalypse, il y a un passage qui dit que c'est figuré, ça parle d'un dragon dans le ciel qui, dans la chute, la queue du dragon a entraîné le tiers des étoiles du ciel. Et par comparaison, plusieurs pensent que on peut faire un lien avec, en disant qu'il a entraîné avec lui dans sa chute le tiers des anges du ciel, qui sont toujours des anges, hein? Des anges déchus, qu'on appelle aussi des démons. Puis ces démons-là sont où? Sont-ils en enfer? Non. Ils sont libres, bien, une certaine liberté, ils ont des limites. Là. Dieu ne leur permet pas de faire n'importe quoi. Il y a un cadre, mais ils sont libres et c'est des démons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils graffinent. Ils graffinent, puis ils sont révoltés. Ils essayent d'arracher du monde avec eux autres, des armées de leur bord. En fait, là, il y a une guerre. Il y a une immense guerre. Si on avait des gens de lunettes spéciales, là, qu'on pourrait voir la dimension des anges déchus et non déchus, là, on verrait toutes sortes d'affaires qui se passent sur Terre autour de nous autres. Donc, quand tu penses que tu te promènes tout seul dans le bois, ou tu es tout seul dans ta chambre, puis que tu es vraiment tout seul, tu penses ça, ben, si tu avais ces lunettes-là, là, tu verrais peut-être que, ouh, il y a du trafic. Il y a du trafic et il y a des combats. Il y a des combats. Parce que le combat, il a commencé dans le ciel, il y a très, très, très longtemps, il se continue aujourd'hui. Il va se continuer encore un bon bout de temps. Donc, pourquoi je dis ça? Pour en arriver à le verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né. Je vais commencer à dire premier-né, je vais parler de premier-né pour dire que Adam, c'est le premier-né. Je vais en arriver ici à l'expression premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire premier-né? Parce qu'on parle de Jésus. Jésus, premier-né. Mais le premier-né, si on parle au niveau de l'homme, c'est Adam. Mais le premier-né ici, c'est un autre type de premier-né. Une nouvelle sorte, une nouvelle génération de premier-né. On parle de Jésus. Pourquoi qu'il est premier-né différent? Parce que Jésus, il est différent. Oui, il s'est identifié à l'homme, il s'est même parfaitement identifié à l'homme, mais c'est pas juste un homme. Il est 100% un homme, mais il est aussi 100% Dieu. On le voit dans sa conception. Quand il a été conçu, tu sais, pour faire un homme, une personne, ça prend comme 46 chromosomes, 23 d'un bord, 23 de l'autre, là. Je peux m'aider dans ma biologie, là. Mais ça en prend, me semble, 23 qui vient d'un bord. Puis dans le cas de Jésus, ça vient de Marie. Donc, toute la génétique de Marie, Jésus l'avait. La génétique de Joseph, qu'est-ce qu'il y avait de Joseph? Il y avait rien. Rien. Parce que la conception s'est faite du Saint-Esprit qui est venu couvrir Marie. Et les chromosomes manquants, ça s'est connecté avec, ça vient de Dieu. Donc, Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Donc, le petit bébé qui est arrivé, c'est un homme, 100% homme. Il y a tout l'extérieur d'un homme, toutes les réactions d'un homme. Si on y fait mal, il va crier. Il va dire, bébé, tu donnes une, tu y fais mal, tu le pinces, il va crier. Parfaitement homme, mais en même temps, parfaitement Dieu. De sorte qu'il pouvait, avec sa parole, commander le vent, les tempêtes, parler à un mort, dire que maintenant, wow, t'es plus mort, t'es vivant. Le mort, il n'y a pas le choix. Il sort de la mort, puis il devient en vie. Il peut commander à des démons de sortir, des personnes. Jésus, 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Dans le verset 6, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit, parce que mettez-vous à la place des anges là dans le ciel. Les anges sont dans le ciel. Ils se rappellent, eux autres, là qu'est-ce qui est arrivé, que l'ange, là, que Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Puis ils se rappellent très bien que qu'est-ce que Dieu a fait. Ils ont été séparés, ils ont été sortis de la présence de Dieu et de la relation qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont été jetés sur la terre, devenus des démons. Les anges au ciel, ils adorent Dieu, eux autres, constamment. Constamment. Puis avec joie, là, c'est pas un fardeau pour eux autres. Là. Les autres sont heureux comme ça. Ils adorent Dieu, puis ils sont aux petits oiseaux en faisant ça. Là, ils voient un petit bébé qui arrive sur terre. C'est quoi? C'est un homme, Dieu, hésitation, je sais pas. Dieu les réconforte. Parce qu'il devait être mélangé. Tu sais, il veut pas faire une gaffe, là, comme ange. Dieu leur dit, au verset 6, et il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Là, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Dieu dit aux anges que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est bien clair. En même temps, ça vient dire de façon claire et nette que le petit enfant qui vient d'arriver, là, ce nouveau-né, là, qui est d'une nouvelle génération, là, homme Dieu, ben, c'est Dieu. Parce qu'un seul Dieu, tu adoreras. Les anges, ils adorent seulement Dieu. Là, c'est clair que le petit enfant qui vient d'arriver au monde, c'est Dieu. Et c'est ça que l'auteur met beaucoup d'emphase sur. Il veut clairement qu'on comprenne que Jésus est Dieu. Le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre, le bâton de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Dieu dit à son Fils, Jésus, qui est né, qu'il est Dieu. C'est Dieu qui lui dit qu'il est Dieu. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Au verset 10, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont les ouvrages de tes mains. On parle toujours de Jésus, le Fils de Dieu. Ils périront, ces ouvrages-là, cette terre et ces cieux. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Nouveau cieux, nouvelle terre. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges n'a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On revoit les anges ici. Et auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, Dieu est là, et le siège à sa droite, un siège VIP réservé pour le Fils de Dieu, Jésus. Et on parle aussi d'ennemis. Quels sont les ennemis de Dieu, de Jésus? Quels sont ses ennemis? Avec ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, on voit qu'au niveau des anges, tous les anges déchus, c'est sûr que les autres sont en rébellion, sont fâchés avec le traitement que Dieu leur a donné. Les avoir sortis du ciel, et puis ils sont révoltés, sont enragés, ils sont devenus des ennemis de Dieu. Et Dieu dit, par rapport à son Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, tous les démons, ton marchepied. Ton marchepied, c'est que, à l'époque, le roi était souvent sur une estrade, il y avait des escaliers qui menaient où ce que la chaise du roi était. Et ceux qui approchaient du roi, ils s'approchaient baissés et ils voyaient le pied du roi. Par respect, il pouvait pas être plus haut que le pied du roi. Il était gardé sous le marchepied du roi. Jusqu'à temps que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, les démons qui sont en liberté actuellement, ils sont pas encore sous le marchepied de Jésus. Ils ont encore comme une, sont en transition. Dieu leur permet d'agir et ils agissent. Mais un jour, Dieu va les ramener en dessous de ses pieds. Et ça va venir, ça s'en vient. Mais d'ici ce temps-là, il y a une guerre perpétuelle, mais pas perpétuelle, là, mais une guerre constante qui va atteindre un culminant. Et là, ensuite, ses ennemis vont être mis en dessous des pieds de Jésus. Verset 14, on parle des anges. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » On parle des anges. Les anges sont envoyés, ont un ministère spécial. Ils adorent Dieu dans le ciel, jour et nuit, ils ne prennent pas de vacances, hein, les anges. Ça ne dort pas des anges, ça ne mange pas, ça ne prend pas de vacances. Puis ça ne vieillit pas. Ils adorent Dieu constamment. Mais ils ont aussi une mission spéciale envers tous ceux qui vont accepter le Seigneur, qui vont hériter du salut. C'est qui ça, ces personnes-là qui vont hériter du salut? C'est nous autres, c'est les VIP. C'est nous autres, les personnes importantes, là, aux yeux de Dieu. Et les anges ont des missions envers nous autres. Tu sais, il y a comme quelque chose qui circule, qui dit que chacun, là, il a son ange gardien. Mais on voit pas ça dans les Écritures, que chacun a un ange gardien d'attitré. Tout petit gars, petite fille, il arrive au monde, il aurait son ange gardien. Tu vois pas ça dans les Écritures. Ce que tu vois, c'est qu'il y a des anges qui ont des mandats spéciaux pour intervenir dans la vie en termes de protection, en termes de combat contre des démons. Il y a quelque chose, il y a une mission spéciale. Envers qui? Envers tous ceux qui vont hériter du salut. Ça, c'est nous autres. Et ça, je ne sais pas si dans vos vies, vous avez vécu des choses comme ça. Avez-vous l'impression des fois que, moi, en tout cas, dans ma vie, là, il y a des choses, des accidents qui sont arrivés dans ma vie, que je suis certain qu'il y avait des anges qui ont dû travailler fort pour me protéger physiquement. Je ne sais pas vous autres si vous avez des... C'est déjà arrivé dans vos vies que vous avez eu l'impression... Parce que les anges, on les voit pas, là. Il y en a qui n'ont vu des anges. Mais la plupart du temps, ils restent invisibles. Mais il y a une action de protection qui est là. Il leur arrive des choses, là, incroyables. Puis, tu sais, je pense à Daniel qui est dans la fosse aux lions. Il y a un ange qui est allé puis fermer la bouche, la gueule des lions. Il y a plein d'autres exemples qu'on voit dans les Écritures. Mais à nous autres, il nous en arrive des choses. Il nous en arrive par rapport à ça. Et aussi, il y a les fameux anges déchus, les démons. Je vais en profiter pour... tu sais, moi, j'ai vécu récemment... mon père est décédé, ça fait un mois. Puis vous autres, je suis sûr que vous avez sûrement vécu quelqu'un de proche qui est décédé. Il y en a qui ont perdu un enfant, un frère, une sœur, un père, une mère, des personnes proches. Écoute, des personnes qu'on aime, on les aime. Puis c'est Dieu, nous autres sur Terre, là, c'est pas drôle de qu'est-ce qui est arrivé quand Adam et Ève ont chuté, là. Tu sais, on dit des fois, on traîne encore ça, mais on meurt, les gens meurent aujourd'hui, là. C'est à cause de ça, là. Je veux dire, c'est la chute d'Adam et Ève, là. Dieu a dit, tu mourras. Il a été créé pour vivre éternellement. Mais là, tu mourras. Puis les jours de l'homme, ils ont été topés à, la Bible dit, 120 ans. Ne dépasse pas 120 ans. On meurt. Des fois, tu meurs plus jeune. Tu meurs. C'est dur. J'en profite pour dire, faites attention. Des fois, tu vas prendre la photo de la personne que t'aimes, surtout quand il y a un décès assez récent, là, tu sais, était avec toi pendant X nombre d'années, puis là, tu la mets sur un babillard ou sur ton frigidaire, ou, OK? c'est sûr. Mais faites attention de ne pas ouvrir une fenêtre, un genre de fenêtre, une porte sur le monde occulte. Je ne veux pas vous faire peur. Je veux juste vous parler d'une réalité que des fois on n'y pense pas, on pense que c'est anodin. Mais c'est une réalité. Il y a un danger d'ouvrir une porte sur le monde occulte. La petite photo qui est là, tu passes là, mais tu lui dis aujourd'hui, aide-moi, j'ai telle chose. Tu commences à lui parler à la photo. Tu sais, c'est une personne que tu connais, que tu as vécu avec elle. Tu commences à lui parler, tu commences à. J'ai besoin de toi. Bon, tu lui parles, OK? La fameuse fenêtre que je te parle. Les démons, là, chôment pas eux autres, là. Ils attendent juste une petite occasion, là, pour s'infiltrer dans ta vie. Pour s'infiltrer, prendre une fenêtre ouverte quelque part, là, fiou, ils vont la prendre. Ils attendent le moment. Puis toi, que tu parles, tu penses pas à ça pendant tout, là. C'est pas ton, tu t'imagines pas que tu parles avec une personne qui est décédée ou qui est morte, là. Tu penses pas pendant tout à ça du tout. Mais sais-tu quoi? Il va se passer des choses. Les démons veulent que tu crois que tu es en relation avec cette personne-là. Elle va te parler, t'encourager ou te répondre ou te faire apparaître des affaires. Tu viens d'ouvrir une canne, une porte, une fenêtre. Tu peux t'attendre à tout. Eux autres, les démons, vont essayer de te faire accroire que cette personne-là, tu es en train de communiquer avec elle. Mais elle est morte. Si cette personne-là, dans sa vie, elle a accepté le Seigneur Jésus, là, elle est en sa présence, puis elle est heureuse 100% en sa présence. Si cette personne-là n'a pas accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, tu peux rien y faire. Tu peux plus rien y faire. Elle est pas en présence du Seigneur Jésus. Elle est dans un autre lieu, en attente d'être jugé. C'est pas drôle de parler de ces affaires-là, mais c'est une réalité. C'est comme ça. Puis on ne peut pas rien y faire. On ne peut rien y changer. On peut changer quelque chose en intervenant, en priant les uns pour les autres pendant qu'on est vivant. Mais quand on passe de la mort à la vie à la mort, là, on tombe dans un autre monde. Là. On n'a plus d'interaction avec eux autres. Mais que je parle de cette fenêtre-là, faites attention, il y en a que par mégarde, sans s'en soucier, ils ont ouvert cette porte-là. Puis je vous dis, les démons, ils vont venir. Ils vont venir. Quelqu'un qui est croyant, qui est chrétien, les démons ne viendront pas le posséder. C'est impossible pour un croyant qu'à l'intérieur de lui, il puisse avoir Jésus et un démon. Impossible. Par contre, il peut venir autour. Il peut venir à ta maison. Ils peuvent venir autour de toi. Puis c'est là que les anges de Dieu vont venir combattre. C'est là que le combat est, des fois c'est dur. C'est très, 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 très dur. OK. Le chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Les choses qu'on a entendues, c'est les choses qui sont dans la Bible. Mes chers amis, tout ce qu'on a entendu, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça c'est un placotage, il y a toutes sortes sur Internet, tu vois là, il y a toutes sortes de philosophies qui parlent de Dieu. Et des fois, ils réfèrent à des passages. Mais la vérité, la seule et unique vérité, c'est celle qu'on a par les Écritures aujourd'hui. Il n'y a plus de vérités qui sont transmises là, verbalement. Les Écritures, c'est la seule source fiable, la seule vérité écrite concernant Dieu et son œuvre et son Rédempteur Jésus-Christ, ce sont les Écritures. Faisons attention de qu'est-ce qu'on entend, même dans les prédications, dans toutes sortes de livres qu'on peut lire aussi. C'est pourquoi nous devons être attachés aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, Les anges ont annoncé beaucoup. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de passages sont des anges qui ont parlé. Dans le Nouveau Testament aussi, juste l'Apocalypse, c'est un ange qui a dicté à l'apôtre Jean le texte. Donc, le message que l'ange lui a révélé des choses. Les anges ont parlé. Au verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, nous a été aussi confié par ceux qui l'ont entendu, donc de deuxième bouche, on pourrait dire, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ceux qui ont vu Jésus à l'œuvre, ils ont vu Jésus et le message que Jésus a dit. Jésus, il s'est pas gêné, il a dit clairement le message qui il était. Et ils l'ont crucifié pour qui il disait qu'il était. Et les personnes qui l'ont entendu, eux autres, ils ont eu tout un ministère après. Quand Jésus est monté au ciel, eux autres, le Saint-Esprit est descendu, et là, il leur a donné une puissance pour propager l'Évangile, et une puissance accompagnée de miracles, de prodiges. Écoute, tu as des personnes qui ont ressuscité des morts au nom du Seigneur Jésus. Il y avait une puissance qui était mise sur les premiers pour proclamer avec force que l'Évangile que Jésus a proclamé, c'est la vérité. Que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, il est vraiment descendu du ciel, vraiment descendu pour te sauver, pour laver tes péchés par son sang. Au verset 5, « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Oups, on parle d'anges. « En effet, ce n'est pas à des anges. » Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis. « Soumis » ici, ça veut dire la gouvernance. C'est pas à des anges que Dieu a donné la gouvernance du monde à venir. Dans le grec, le monde qui est là, on parle du monde habité. Donc, habité, ça réfère sur la terre. Donc, c'est pas à des anges, ce n'est pas à des anges que Dieu a donné la gouvernance de la nouvelle terre, du monde à venir. C'est pas des anges. C'est à qui? C'est pas des anges. Ah, OK. On voit plusieurs fois le mot ange. Et souvent, ange ici, il nous sert un peu comme de référence. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé des anges. On a parlé que Jésus était supérieur aux anges. Puis on va le voir un petit peu bientôt. Jésus était pour un peu de temps inférieur aux anges. On parle des hommes. Les hommes sont où par rapport aux anges? Supérieur, égal, inférieur. Mais actuellement, là, on est inférieur aux anges, actuellement. Quand on a été créé au début, puis quand, dans le monde à venir, Ah, on se pose des questions. Au verset 6, « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. » Ça a l'air flou un peu, mais quand on regarde un peu plus, le « quelqu'un », c'est David. Et le quelque part, c'est le psaume 8. Ça dit ceci. Et ceux qui veulent sont curieux d'aller voir, vous pouvez aller voir dans le psaume 8. Vous allez voir que c'est étrangement ressemblant aux trois prochains versets qu'on va voir, là. Et les chapitres 8, psaume 8, versets 5, 6 et 7. Vous allez voir que c'est pas mal pareil. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Et dans psaume 8, on voit, verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu ne prennes garde à lui? » Bon, pareil. Et verset 7, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Ah, au-dessous des anges. Je vais voir dans psaume, verset 6, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Un dit des anges ou de Dieu. Mais ceux qui ont une bonne Bible, qui ont la Septante, quand que l'auteur inconnu a écrit Hébreu, puis qui référait à des passages comme ça, Ils se servaient souvent de la traduction de l'époque qu'il y avait de l'Ancien Testament, qui était, l'Ancien Testament est en hébreu, mais il y avait une traduction dite de la Septante, qui avait été traduite à peu près dans les années 300, à peu près, là, avant Jésus, et qui circulait, qui était accessible dans le temps de Jésus. Et dans la Septante, la traduction, eh bien, ça dit, ça parle des anges. Même dans le psaume 8, là, le verset 6 qu'on vient de lire dans notre traduction à nous autres, plusieurs ici ont « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu », mais dans plusieurs traductions, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont ici, là, ça serait-tu marqué « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges ». Je ne sais pas, ça dépend des traductions. Là. OK, donc, les anges de Dieu, ici, on parle toujours de qui, là? Donc, on parle de qui? De qui? On parle de, suivez-vous, là? On parle de qui, là? Dans ces textes-là, on parle de Jésus ou de l'homme? On parle de qui, là? Regardez au verset 6. On parle de l'homme. On parle de l'homme. Faut pas se mêler. On parle de l'homme. C'est qui l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ici, ça peut-être vous mélanger quand il dit « ou le fils de l'homme ». Mais le fils de l'homme, il y a un petit « f ». Le fils de l'homme qui est ici, là, ça réfère à l'humanité. C'est pas Jésus, c'est souvent fait appeler de lui-même « fils de l'homme » avec un grand « f ». Mais ici, dans ce cas-là, c'est on parle de l'homme. Pour que tu prennes soin de lui, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Tout ça, on a de la misère à le voir actuellement. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Dans le fond, si on regarde au début, quand Dieu a créé l'homme, oui, Dieu l'a traité comme un roi, si on veut, lui a donné l'autorité sur la terre, la gouvernance de la terre. Maintenant, c'est pas ce qu'on voit. On voit pas qu'on est en contrôle de rien pantoute. C'est plutôt le contraire. On n'est pas en contrôle de rien. On gouverne pas mal rien sur la terre. La terre est sous quelle gouvernance? Il y a un passage qui dit que la terre est gouvernée par qui? Par Satan. C'est lui l'ange de la puissance de l'air. C'est lui qui gouverne la terre actuellement. Mais dans la fin des temps, ça va nous être redonné. Donc, ce passage-là, un petit peu, c'est ça qu'il veut dire un petit peu, là. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Là, au verset 9, on vient de changer au verset 9. Au verset 9, là, on parle plus de la même personne. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, là, on le nomme Jésus, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Les fils qu'on parle, c'est nous autres. Car celui qui sanctifie ou qui rend saint, et ceux qui sont sanctifiés ou rendus saints sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas honte de nous appeler frères. Ça, c'est un traitement VIP de quelque chose de pas à peu près, là. D'être appelé frère de Jésus. Fils, il nous appelle fils au verset 10. Et au verset 12, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi. » Jésus qui parle. « Me voici moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, mais lui-même, il a également participé, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Au verset 16. Car assurément, c'est pas à des anges qu'il vient en aide. Oups, encore des anges. car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à qui? À la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham, c'est les hommes. Donc, Dieu ne vient pas en aide aux anges. Mais les anges, là, dans le ciel, là, ils sont là, ils adorent Dieu, ils le louent, ils viennent avec en interaction avec les hommes, ils ont des missions spéciales avec les hommes, OK? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Ont-ils besoin d'être aidés? Ils se plaignent-tu? Y a-t-il quelque chose qui marche pas avec eux autres? Ont-ils un problème? Les anges, ils font leur travail, ils prennent pas de vacances, on les entend jamais, il n'y a jamais de pétition, ils n'ont jamais rien entendu que les anges étaient en problème ou les anges qui ont gardé leur dignité. Les autres anges, les anges déchus, ben là, c'est autre chose. Les autres, ça graphine, puis ça, ils nous en causent des problèmes. Car assurément, ce n'est pas à des anges que Dieu vient en aide. C'est pas à des anges que Dieu vient en aide. Ici, j'en arrive au point que Dieu, là, quand il a déchu les anges, Lucifer, qui était très grand ange, archange, très, très proche de Dieu, il l'a tassé et ils ont suivi peut-être le tiers des anges du ciel. Mais savez-vous, est-ce que Dieu a un plan pour eux autres? Est-ce que Dieu a un plan de réconciliation avec les anges déchus? Ben moi, je n'ai jamais vu dans la Bible. S'il y en a un, il est caché pour nous autres, mais moi, je n'en ai jamais vu. C'est plus le contraire qu'on voit. On voit que Dieu, qu'on a vu, le passage qu'on a vu, que Dieu attend de prendre ses ennemis et de les mettre sous son marchepied. Ici, c'est pas en aide, il vient pas en aide aux anges déchus. Mais qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, avec l'homme? Quel traitement de faveur qu'il a fait avec l'homme? L'homme, là, il a piqué une débâcle, comme l'ange a piqué une débâcle en haut, là. Hein? L'homme, là, Adam, là, il a piqué une méchante débâcle, lui-là, là, en désobéissance à l'ordre que Dieu lui avait donné. Puis en plus, l'ange en haut, il a entraîné le tiers des anges du ciel. L'homme, il a entraîné quoi, lui? Toute l'humanité au complet, avec lui. Là, aujourd'hui, je suis séparé de Dieu à cause du péché d'Adam. Mais faites-vous-en pas, c'est pas juste à cause. Moi-même, personnellement, je vous le dis, là, j'en ai rajouté au péché d'Adam. Je n'ai rajouté Adam, il m'a mis dans le trouble, là, mais moi-même, je me suis mis dans le trouble. J'en ai rajouté. J'en ai mis épais. Puis c'est pas juste à cause d'Adam que je suis séparé de Dieu, à cause de mon propre péché aussi. Mais Dieu, il a fait un traitement spécial de faveur envers moi. Il a pris son fils unique, d'une valeur inestimable. Il l'a envoyé dans un corps humain. Il l'a envoyé sur la croix pour servir de sacrifice, d'expiation pour mes péchés, pour que moi, je puisse être blanchi totalement de mes péchés. Complètement lavé, blanchi à 100%. De sorte que je suis maintenant pur à 100% devant Dieu. Si je meurs, le sang de Jésus m'a lavé de tous mes péchés et je suis avec certitude en présence de Jésus et pour l'éternité. De la même façon que quand Jésus était sur la croix puis qu'il y avait un des larrons à côté qui s'est tourné vers Jésus puis qui lui a dit « Ne m'oublie pas quand tu seras dans ton ciel. » Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit simplement « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans mon ciel. » Il n'a pas fait aucune œuvre, la personne là à côté. Là. Elle n'a rien fait de bon. Toute sa vie, c'était crucifié parce que c'était un meurtrier. Donc, elle n'avait rien fait de bon. Là. Mais je veux focusser sur le traitement de faveur. Parce que ce qu'on parle ce matin, j'ai un traitement VIP, j'ai un traitement de faveur. Les anges dans le ciel n'ont pas eu droit à ce traitement de faveur-là. Les anges déchus. Dieu, pourquoi qu'il y a un traitement de faveur comme ça envers l'homme, puis qu'il veut lui redonner les conditions qu'il avait dans l'au-delà. Il veut rétablir une nouvelle terre, un nouveau ciel, lui redonner la gouvernance de la terre. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, nous autres, afin qu'il... Bon, on va terminer là-dessus. J'aimerais terminer, mais j'aimerais conclure avec la prochaine chose. Qu'est-ce que cette relation-là, VIP, peut produire en moi? Ça peut produire quoi en moi? Deux choses ça peut produire. Premièrement, ça peut produire un sentiment de... Tout à l'heure, quand on va sortir, là, il y en a peut-être qui vont sortir ici, là, un petit peu gonflé ici. Tu sais, moi, je suis VIP. Déroulé le tapis rouge. Et moi, je suis VIP. C'est une très important person. Y a-t-il un danger que, c'est de la globe grossisse ici, hein? Y a-t-il un danger d'orgueil? Il y a un danger d'orgueil. Si je m'imagine que c'est à cause de moi, à cause de ma valeur personnelle, que Dieu me doit ce traitement de faveur-là, tu sais, c'est normal. Regarde-moi, c'est quelque chose, là. Je comprends que Dieu a sacrifié son fils. Je comprends, c'est le minimum, tu sais. Mais l'autre, si j'ai plutôt un sentiment que, tu sais, si je me regarde comme il faut, là, puis je m'analyse, là, avec la tonne de péchés que j'ai, là, qu'est-ce que j'ai, comme, honnêtement, là, je mérite pas pantoute, d'être traité comme une personne si importante que ça aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme, tu sais? Qu'est-ce que je suis, moi, là, pour que Dieu m'ait traité de cette façon-là à mes origines, puis qu'il veut me traiter comme ça pour l'au-delà, dans l'au-delà, en sa présence, pour l'éternité. Il veut me mettre, je sais pas comment il va me mettre par rapport aux anges, tu sais. Il y a un passage qui dit, savez-vous pas que vous allez juger les anges? Bon, si je les juge, c'est parce que au moins égal ou en tout cas. Regarde, on va-tu être égal ou un petit peu plus que les anges? Regarde, on va le voir en dessous de bord, là. C'est pas si grave que ça, là. Hein? Mais ce que je sais, c'est qui? Mon doux qui m'a aimé. Mon doux qui m'a aimé. Puis qui t'a aimé. J'aimerais qu'on puisse terminer dans la prière. Seigneur Jésus, combien tu m'as aimé, Seigneur Jésus. Combien tu m'as aimé. Seigneur Dieu, pour avoir donné ton précieux fils Jésus, ton précieux, mais précieux fils, auprès de toi, tu l'as donné en sacrifice pour moi, pour que je puisse avoir cette place privilégiée auprès de toi dans ton royaume. Tu veux m'accorder une gouvernance, tu veux m'accorder toutes sortes de... Juste ta présence. Je vais avoir accès à toi éternellement. Je verrai ta face éternellement. Je verrai mon Sauveur éternellement. Quoi de plus merveilleux que cette condition que tu me réserves? Merci, Seigneur Jésus, de tellement m'aimer. Fais que je sois reconnaissant de ce traitement VIP que tu as fait pour moi. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.